extrêmement brimé par les pouvoirs publics. Alors, avec cette notion, dans le domaine de l'environnement, on voit apparaître des premières fissures, si j'ose dire, dans le Yalta mondial entre les États-nations territoriaux, avec ce qu'on appelle les biens publics globaux. Et donc, sous l'effet de l'idéologie environnementaliste, apparaît la notion de patrimoine commun de l'humanité. On voit très bien que, par exemple, le statut de l'Antarctique loge à la logique juridique, puisque vous avez un territoire qui est normalement propriété collective de l'humanité et qui est ensuite dans la gestion est concédée, si j'ose dire, mais au nom de l'humanité tout entière, à des États-nations territoriaux classiques. Le problème qui me paraît le plus intéressant pour la notion de commun, c'est ce qui est relatif à la biodiversité plutôt qu'au climat. Alors pourquoi la biodiversité? Parce que dans le climat, si j'ose dire, les choses sont trop simples. C'est-à-dire que vous avez, si j'ose dire, des indices quantitatifs. Vous savez ce que c'est que des tonnes de carbone, des tonnes de CO2, et donc vous avez des calculs qui permettent de réduire les différents pouvoirs de réchauffement globaux des gaz à des tonnes d'équivalent carbone. Bon. Tandis que dans le cas de la biodiversité, ça me permettra d'introduire un peu une petite critique de la notion de commun, vous avez, d'après l'Académie des sciences, trois types de biodiversité. Alors, vous avez là ce qu'on appelle la biodiversité spécifique, la biodiversité génétique et la biodiversité écosystémique. La plus connue, c'est la biodiversité spécifique. Alors, ce qui est très intéressant avec la biodiversité, c'est qu'elle met, une fois de plus, en défaut ma bête noire, c'est-à-dire le calcul économique classique, parce que des trois biodiversités, c'est la spécifique qui, à la rigueur, rentre dans les mécanismes de mise en équivalence du calcul économique. Alors, comment on fait? Eh bien, on fait, vous savez, c'est les histoires de combien vous voudrez payer pour sauver le gentil dauphin, qui est menacé par les filets, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le consentement à payer. Donc, les économistes imaginent tout un montage fictif qui s'appelle les marchés contingents. Et donc, on interroge les gens en faisant des sondages représentatifs pour savoir quel serait leur consentement à payer pour sauver telle espèce. Alors, l'espèce en question, elle est visible, c'est-à-dire, ça a un sens de demander à quelqu'un, ça représente quelque chose pour lui, de vouloir sauver un dauphin, les éléphants, les rhinocéros, etc. Alors, quand vous avez des espèces qui ne sont pas sympathiques, par exemple, là, ça devient plus combien vous êtes payé pour sauver les crotales, ou les requins, déjà, on voit très bien que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors ensuite, donc vous avez un problème de, les cognitivistes disent, d'identification, de science, ensuite vous avez des problèmes d'interprétation, quand les gens répondent zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent que l'espèce disparaisse, ou bien est-ce que ça veut dire qu'ils sont trop avares pour pouvoir travailler? C'est extrêmement compliqué, même dans la logique interne, de cette psychologie cognitive que Alain Cayet qualifierait d'utilitariste. Mais alors, si vous prenez ensuite des phénomènes comme la biodiversité génétique, où là, vous pouvez individualiser un gène, à la limite, vous pourriez dire, mais voilà, combien vous êtes prêt à payer pour sauver le gène qui permet à tel bacille de la flore intestinale de tel tigre de survie. Bon, alors, ouais, c'est un degré d'abstraction considérable. Donc, Leibniz parlerait de percées distinctes. Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment avoir des petites perceptions perceptibles, si j'ose dire. Et alors, ce qui me paraît le plus intéressant pour les besoins de ma démonstration, c'est la diversité écosystémique. Parce que là, vous n'avez même pas, si j'ose dire, le principe d'individuation. C'est-à-dire qu'un écosystème, c'est un ensemble d'espèces, de flux, d'hésités entre les frontières des individus. Alors, c'est une métaphore que je vais utiliser, si vous voulez, pour essayer de faire comprendre pourquoi notre système gouverné par l'esprit du traité de Westphalie est en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'au fond, On l'a vécu d'une manière un peu ironique à propos de Tchernobyl. C'est-à-dire, on nous a dit en France, voilà, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières. Bon. Alors, quand vous parlez d'écosystème, vous voyez très bien que ça n'existe pas, les frontières. Dans un écosystème robe, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de frontières qui empêchent les produits de passer, les flux de circuler, etc. Donc, du point de vue topologique, on n'est pas dans des... C'est l'opposition classique en topologie entre les fermés et les ouverts. C'est-à-dire que, au fond, il faut imaginer les écosystèmes comme... des membranes poreuses, des systèmes de membranes poreuses, et donc les flux circulent, sont ouverts sur l'extérieur, il y a des échanges, etc. Alors, donc du coup, ça veut dire qu'il va y avoir une frontière entre ce qui est accessible au calcul, à l'individuation, au comptage, et ce qui par contre va, par construction, échapper au calcul, au comptage. Alors, en économie, c'est une review en 1921, lorsque Keynes et Knight, alors Keynes, dans sa jeunesse, il a fait une thèse en mathématiques, en calcul des probabilités, et Knight était un mathématicien aussi, et en 1921, ils ont introduit une distinction, bon, alors c'est un peu la tarte à la crème pour les économistes, s'il y en a dans la salle, je vous prie de m'excuser, entre le risque et l'incertitude. C'est-à-dire que, en gros, exactement, plutôt. Le risque, c'est ce qui est calculable mathématiquement, c'est ce qui est mesurable, c'est ce qui rentre dans une théorie de la mesure. Et l'incertitude, c'est ce qui n'est pas mesurable. Bon, alors après, ça a été raffiné par les théories de la mesure dans les années 20, etc. Ce qui fait que l'axiomatique, la première axiomatique un peu conséquente du calcul des probabilités a été formulée par Cole en 1922, je crois. Donc c'est très tardif. Rétrospectivement, c'est ça, on se dit que Pascal n'avait pas besoin de Kolmogorov pour savoir en gros ce que c'était que le calcul des probabilités. Bon. Mais si j'en reviens maintenant au problème posé par l'environnement, cette différence entre le risque et l'incertitude fonde ce qu'on appelle le principe de précaution. Puisque vous ne pouvez pas calculer, puisque vous ne pouvez pas probabiliser les choses, les événements, les risques, etc. Donc vous ne pouvez pas faire de bilan coût-avantage en espérance mathématique, comme on dit, en calcul des probabilités. Donc du coup, vous dites, ben, puisqu'on ne peut pas calculer, ben, il faut avoir une autre règle rationnelle de calcul, et donc ça légitime le fait que vous fassiez appel au principe de précaution. Et donc, cette limite au calcul économique, vous voyez que donc il y a deux, la prise en compte des phénomènes de l'environnement introduit deux limites par rapport à l'économie classique et mathématique anachronique du début du 19e siècle. D'une part avec la notion de bien public, puisque vous n'avez pas d'individuation, et donc vous ne pouvez pas compter, vous ne pouvez pas dénombrer, etc. Et d'autre part dans le temps, par la différence entre l'incertitude et le risque. Et donc, j'en viens maintenant à dire que, du point de vue de la topologie, donc c'est l'enjeu de cette deuxième partie, de l'extension de la solidarité au domaine de l'environnement, vous ne pouvez pas garder, au fond, une image de l'espace social qui est celle de la map-monde de notre enfance, dans lequel, à l'échelle, le monde est partagé en polygones, de différentes couleurs, donc là il y a un théorème des couleurs qui dit que vous ne pouvez pas avoir de couleurs de même différence, fermées par des segments, etc. Donc vous ne pouvez pas avoir une partition en termes de votre espace homogène, isotrope, etc., par des fermés. Donc en réalité, vos frontières sont poreuses, tout ça communique, et donc vous avez des trous partout, des fractures, etc. Et donc ça va tout à fait dans le sens qui a été développé sans vouloir offenser Tony Legri, par Deleuze et Guattari au moment de l'anti-Oedipe et de Mille Plateaux, et puis dans Empire et Multitude plus récemment. Alors, dans mon langage à moi, j'ai dit qu'on passait de l'État-nation territoriale selon le traité de Westphalie à l'Empire monde-archipel.